Mesdames et messieurs, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien, à l'occasion de la troisième édition de la Foire des Femmes des Médias, en direct de la salle Boboto. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Tonnerre d'applaudissements, le maximum de bruit. Bienvenue dans ce programme. De quoi allons-nous parler ? Nous allons parler tout à l'heure de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, et nous parlerons aussi de l'implication des femmes des médias dans l'autonomisation de la femme. Merci à toute l'équipe de production, Patrick Yassongwa, Alain, merci à Tati Mapoukou, Jean-Marc et à tout le monde. Merci d'être là, et à vous le public, merci d'être là ce matin pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bien, alors c'est parti. Okapi Service en direct du Centre culturel Boboto, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, fidèles auditeurs, c'est une émission spéciale à l'occasion de la troisième édition de la Foire des Femmes des Médias, organisée par la COFEP, qui est l'Association des Femmes de la Presse Écrite, et l'UCOFEM, dans le cadre du programme MSDA, mis en œuvre par Internews, avec le financement de l'ISAID et des coopérations suédoises et suisse. Alors voici rapidement le premier sujet sur lequel va porter cette émission. Vous savez, de nombreuses femmes congolaises éprouvent des difficultés pour subvenir à leurs besoins sociaux de base, et les filles mères font aussi partie de la catégorie des femmes exposées à la pauvreté. Alors il faut s'attaquer aux stéréotypes qui freinent l'autonomisation de la femme et de la jeune fille congolaise, selon les sociologues. Alors comment faire pour promouvoir l'autonomisation de la femme et de la jeune fille? Directement, je vais donner la parole à nos intervenantes, les panélistes. Madame Bernadette Kamango est journaliste indépendante et chargée de communication du Forum entrepreneuriat de la femme congolaise. Madame Bernadette, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors,
bonjour,
la première question, de savoir, quand on parle de l'autonomisation, de quoi s'agit-il?
Eh bien, quand on parle de l'autonomisation, il s'agit tout simplement de l'action qui rend autonome. Et autonome veut dire ne dépendre de personne, ne dépendre de rien du tout. En bref, être indépendant.
Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la femme et la jeune fille sont autonomes en République démocratique du Congo?
En République démocratique du Congo, on peut dire oui et non. Oui, parce que il y a beaucoup d'efforts actuellement qui sont faits justement pour impulser la femme à devenir justement autonome. Et non, parce que malgré tous les efforts qui sont faits, elle reste toujours au niveau de la précarité, tout simplement parce qu'elle est butée à des problèmes surtout liés à nos coutumes, à nos us et coutumes ici en RDC, aux problèmes culturels et puis surtout aux stéréotypes par rapport aussi à cette position.
Alors, pouvez-vous citer quelques cas des obstacles à l'autonomisation de la femme dans notre pays?
Bon, je parlais tout à l'heure des us et coutumes.
Les us et coutumes,
évidemment, selon les provinces. Il y a des provinces qui sont un peu plus, qui acceptent un peu plus justement que la femme puisse évoluer de manière indépendante. Mais il y a d'autres provinces dans lesquelles vous verrez que la femme est vraiment contrainte peut-être à rester, comme on peut dire entre parenthèses, au niveau de la cuisine, et elle ne peut rien faire pratiquement sans l'autorisation du mari, si je peux parler de cette manière.
D'accord, préparez déjà vos questions dans la salle. Madame Rose Camoigna, vous êtes présidente de l'ONG Carrefour des Femmes, de l'action Lève-toi et brille. Nous parlons des questions de l'autonomisation de la femme. D'après vous, quels sont les autres obstacles à l'autonomisation de la femme dans notre pays?
Oui, il y a un certain nombre de choses qui empêchent à la femme et à la jeune fille de pouvoir être autonome. Il y a aussi ce pouvoir qui est très très inférieur. Nous avons également, en dehors de ce que ma collègue a dit tout à l'heure sur les us et coutumes, nous avons également la religion qui entre en concert. Nous avons également l'éducation qu'a eu la jeune fille. Déjà à l'âge toute petite, on l'a directement orientée vers la maternité. Ça ne permet pas à la jeune fille d'avoir une vue sur une certaine projection de la vie et contribuer au développement. Au contraire, ça freine la jeune fille à avoir juste une vue sur le fait qu'elle doit devenir mère un jour, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son ménage, et c'est tout. Et alors que, à côté de tout cela, il y a la communauté, le pays, qui attend aussi beaucoup de l'homme et de la femme. Alors, tout ça, ce sont des problèmes auxquels la femme et la jeune fille sont confrontées. Il y a également l'accès difficile aux ressources. Il y a le faible pouvoir qu'a la femme, le pouvoir de, le pouvoir sur, le pouvoir avec. Alors, ce sont des choses sur lesquelles nous devons normalement travailler pour aider la femme et la jeune fille à pouvoir devenir autonome.
Bien, nous parlons de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Alors, je reviens à vous, Madame Bernadette Kamango. Pouvez-vous nous parler de l'autonomisation de la femme dans le cadre informel?
Bon, l'autonomisation de la femme dans le cadre informel, je parlerai d'abord de l'autonomisation économique de la femme. C'est-à-dire que quand la femme est économiquement autonome, elle parvient justement à participer à une croissance économique et inclusive dans le développement national. Les femmes sont vraiment des agentes économiques qui sont résilientes et astucieuses.
D'accord, allez-y.
Pour revenir peut-être à votre question,
oui.
Quand on parle en fait de la femme dans le secteur informel, on parle de l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est-à-dire qu'on parle de l'entrepreneur, la personne physique. Ce qui est totalement différent de l'entrepreneur qui est dans le formel, où il s'agit ici de l'entreprise, une entreprise structurée, donc une entreprise qui est une personne morale, c'est-à-dire qui est déclarée et qui est reconnue par l'administration publique et qui a tous ses papiers. Maintenant, il y a un problème quand la femme évolue justement dans un secteur tout à fait individuel, quand elle reste personne physique. Par exemple, nous voyons nos mamans dans nos différents marchés. Nous voyons comment chaque matin elles se réveillent très tôt. Elles vont devant leur table, mais elles ne se rendent pas compte que quelque part, elles continuent à travailler dans le secteur informel. Le secteur informel...
Dans les secteurs informels, on peut citer toutes ces mamans qui vendent les mamans maraîchères, qui vendent les makalas, qui vendent au marché.
Oui, exactement. Elles sont dans le secteur informel parce que si vous allez vers elles, si vous leur demandez est-ce que vous avez des documents officiels de l'État?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez le RCCM? Elles n'ont pas. Vous avez l'identification nationale? Il n'y en a pas. Est-ce que vous êtes reconnu auprès de l'État? Non. Donc tout ça, ça rend la femme aussi de manière un peu vulnérable parce qu'elle est automatiquement accessible à tout ce qui ne permet pas justement son évolution, qui ne permet pas qu'elle puisse aller de l'avant. Tandis que quand une femme est dans le secteur formel, elle est d'abord reconnue par l'État. Le fait d'être reconnue par l'État, ça lui permet de bénéficier de certains avantages. Par exemple, elle peut obtenir facilement des marchés. Et quand elle est dans l'informel, il est difficile que, je peux dire à titre d'exemple, un partenaire financier puisse s'adresser à une personne qui a une entreprise individuelle, qui est simplement physique. Le partenaire financier cherchera beaucoup plus à aller vers la personne morale, celle qui est structurée, tout simplement pour éviter les risques. Donc, elle vit dans les risques perpétuels. Et ce fait de, par exemple, de manquer de financement tout simplement parce qu'elle n'est pas structurée, ça ne lui permet pas d'aller plus de l'avant. Oui. Et ensuite, quand elle reste dans l'informel, nous observons nos mamans dans les marchés, c'est seulement pour l'autosuffisance alimentaire, s'occuper de son ménage. Et elle n'y a pas une... Même si on reconnaît que ces femmes font un gros travail, elles font, je peux dire, sur le plan monétaire, elles font circuler la masse monétaire, mais cet argent-là va où? Tandis que quand elle est dans une structure, elle est dans son entreprise, cet argent-là, quand elle le fait circuler, son argent à la fin du mois peut se retrouver dans la banque. Et quand ça se repercute dans la banque, automatiquement c'est l'économie du pays
qui tourne. Bien, on va recueillir des questions dans la salle tout à l'heure. Tati, y a-t-il déjà des questions? adresser aux intervenantes. Madame Rose, le temps d'avoir des questions, vous allez nous parler un peu plus des stéréotypes qui freinent l'autonomisation de la femme. Madame Rose Camonia.
Effectivement, nous avons constaté que les stéréotypes freinent l'autonomisation de la femme. C'est déjà un cliché qu'on met sur la femme. Ça provient des cultures, us et coutumes. Ça provient de la manière dont on perçoit les choses. On pense que l'autre est différent de soi, mais on pense qu'on est peut-être plus supérieur que l'autre. Alors, on se fait des idées sur la personne, on met des clichés, on donne des noms, on donne des images sur la personne.
Pouvez-vous donner des exemples?
Ici,
allons-y avec les exemples.
Ici, chez nous, par exemple, nous prenons le langage pour ceux qui parlent le lingala. On dit koliana mwasi ezali koliana ndoki, mwasi atonga kambo kate. Donc, il y a un tas de choses qui amène vraiment le frein par rapport
à des stéréotypes.
Oui, ce sont vraiment des préjugés sur des personnes. Ça peut être même sur toute une communauté, ça peut être sur une ethnie.
Et il y a même d'autres qui disent Koliana Mwasi, Koliana Ndoki.
Ce sont des choses qui se disent. Ce sont des choses qui se disent. Mais dommage, parce qu'en fin de compte, les gens finissent toujours par épouser les femmes et les jeunes filles. Alors, nous nous posons la question de savoir. En fin de compte, qui est Ndoki? Est-ce que c'est la personne qui prend l'autre qui est Ndoki en mariage, ou c'est la personne qu'on pense être
Ndoki? Qui est le vrai Ndoki à ce moment-là?
Voilà. Donc c'est un tas de choses avec lesquelles nous vivons tous les jours, qu'il faudrait vraiment chercher à déconstruire dans la société, dans la communauté, pour aider la femme à être et la jeune fille à être réellement autonome. Vous allez remarquer qu'il y a à certains endroits où on ne laisse pas la femme prendre les devants. On vous dit, c'est comme ça qu'elle a été éduquée. On peut lui dire, non, mais waneza musala ya bamibali. Vous voyez un peu, quand une jeune fille, par exemple, veut faire des études en polytechnique et autres, on la regarde par deux fois pour dire, est-ce que elle ne va pas aller passer tout son temps là-bas et n'est pas à en arriver au bout. C'est-à-dire que les préjugés, ça nous empêche au fait de réaliser plusieurs de nos rêves, et on arrive déjà à tracer pour la jeune fille, pour la femme, la manière dont elle doit mener la vie. Et ça, ce sont des freins. Ce sont des freins parce que la personne ne se sent pas libre de pouvoir aller un peu plus au-delà de ce qu'elle aimerait faire, au-delà de ce qu'elle voit tout autour d'elle, parce qu'on lui a appris qu'elle ne peut pas se mettre à table, à la même table que l'homme. On lui a appris qu'elle ne peut pas prendre la parole parmi les hommes. On lui a appris qu'elle doit rester en arrière. Et comme la femme conserve les traditions, c'est cette même femme qui va dire à l'autre femme qu'elle ne peut pas aller loin. Voilà un certain nombre de choses qui empêchent à la femme de s'autonomiser.
Mesdames et messieurs, merci d'applaudir très 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 fort pour nos intervenantes. Au Capi Service, nous sommes en direct de Bobotto à l'occasion de la foire des femmes des médias. Alors on va accueillir les questions dans la salle. Bonjour.
Bonjour. Diane Monkichem, animatrice à la RTNC, la chaîne nationale, la une. Mesdames, bonjour. Que faire pour les filles mères? Vous avez parlé tout à l'heure des filles mères. Les jeunes filles mères doivent-elles d'abord aller à l'école pour recevoir une éducation, ou encore, parce qu'elles sont jeunes, 14, 15, même moins que ça, elles ont déjà des enfants, ou encore il faudrait, comme vous parlez de l'autonomisation, leur remettre un petit fonds, leur apprendre à se débrouiller, à devenir indépendantes. Que privilégiez-vous? Que devons-nous privilégier?
Merci madame pour la question. D'autres intervenantes?
Merci pour la parole.
On va
parole.
Prendre une série de 5 questions et puis les intervenantes vont répondre. Oui madame, bonjour.
Je suis madame Judith, présidente de l'ONG Action pour la défense des droits des femmes et lutte contre les changements climatiques. Ma question est celle-ci. Ces femmes-là qui ont incarné les stéréotypes dans leur tête. Parce que souvent, quand nous sommes sur terrain, nous constatons que les femmes n'ont même pas cette conscience-là de leur valeur. Alors, je me demande, aujourd'hui nous luttons pour l'autonomisation de la femme, de cette femme-là qui a tellement incarné les stéréotypes en elle qu'elle n'arrive pas à se relever. Nous allons nous battre pour les femmes elles-mêmes ou pour la génération future. Je veux un peu plus de partage d'expérience sur ces points, parce que parfois, pour pouvoir organiser des activités comme ça, et puis les femmes elles-mêmes ne sont même pas présentes, elles ne se préoccupent même pas de ça. Est-ce qu'il faudrait-il organiser des séances de formation pour ces femmes-là, pour les aider à éduquer leurs enfants à la maison, de changer un peu la façon de voir les choses autrement pour la génération future où on doit se battre pour ces femmes-là?
Merci, elles-mêmes. Madame. Merci pour cette préoccupation. Bonjour, monsieur.
Ouais, bonjour. C'est Saint-Hervé de ouragan.cd. Je suis vu le mesdames. Je me suis rendu compte que le mal est profond. Ils se sont attardés sur les us et coutumes. Mais si on peut revenir d'abord à notre système éducatif, par la famille même, les choix de jouets pour les enfants, s'incarnent même ces stéréotypes, mais aussi dans le système éducatif au niveau de l'instruction, les manuels scolaires, qu'est-ce que ça raconte? Papa va au travail, maman reste à la cuisine. Curieusement, vous avez évoqué certains faits, mais vous avez élagué cette réalité-là. Merci.
Merci, Monsieur Hervé. On prend la dernière question, ou c'est déjà la quatrième? Oui, madame, vous avez prenez le micro. Bonjour.
Bonjour, monsieur le modérateur. Félicitations à nos trois dames pour vos exposés combien importants. Ma préoccupation est la suivante.
Ah, oui. Madame, ne s'est pas présentée d'abord.
Ah, excusez-moi.
Allez-y.
C'est la révérende pasteur Bénédiction Viviane Bongo. Je suis du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et aussi, je suis dans une organisation dénommée Dynamique pour la solidarité féminine.
Merci, révérende. Quelle est votre préoccupation?
Voilà, la préoccupation est la suivante. Nous parlons de la promotion de l'égalité des sexes, l'autonomisation de la femme. Mais j'ai souvent remarqué que les femmes prostituées, n'est-ce pas, ne font pas partie de nos préoccupations. Quand j'ai dit nos organisations ne voient pas que ces prostituées doivent aussi faire partie intégrante du développement de la nation. Mais vous, femmes de médias, qu'en pensez-vous?
Des femmes prostituées.
Voilà.
Vous avez l'impression qu'elles sont souvent mises à l'écart.
Bien sûr,
hein?
Nous ne parlons jamais d'elles. On ne prend jamais de résolutions pour pouvoir les réinsérer, n'est-ce pas, dans notre société. Et que devons-nous faire maintenant par rapport à cette catégorie des femmes?
D'accord, merci révérende. Tati, c'est bon? Il y a une autre... C'est déjà la quatrième question? C'est la quatrième. On prend la cinquième et les intervenantes vont répondre par rapport à vos préoccupations. Bonjour.
Bonjour. Merci. Ange Allot, qui est étudiante en communication. Puisqu'on parle des préjugés vis-à-vis de la femme, Madame Bernadette avait répondu par oui et non à la question de l'autonomisation. Que doit faire la femme concrètement, parce qu'on parle des préjugés envers elle? Moi, je m'attendais à un oui à la réponse de Madame Bernadette, qui a répondu par oui et non, parce que cette lutte a déjà pris beaucoup d'années. On pouvait carrément répondre qu'il y a l'autonomisation, mais là, elle répond par oui et non. Qu'est-ce que doit faire la femme concrètement pour qu'on ne parle plus de ses préjugés? Merci.
Merci pour toutes ces questions. Est-ce qu'on peut les applaudir très très fort? Merci de les encourager pour toutes ces préoccupations. Madame Bernadette Kamango, à vous la parole.
Bon, pour la première question, il est question de parler des filles mères, donc des adolescentes, qui malheureusement au cours de leur cursus se sont retrouvées avec un enfant sous les bras. Et la question c'est de savoir, entre l'éducation et les fonds à leur allouer pour qu'elles puissent se débrouiller, qu'est-ce qu'il faut privilégier? De prime abord, je dirais l'éducation. Parce qu'une fille qui n'est pas éduquée, là, je vois maman vient de nous parler de la prostitution. Une fille qui n'est pas éduquée, qui est sans connaissance. Bon, ne vous en faites pas, elle ne comprendra rien de ce qu'elle doit faire. Vous aurez Comment je peux comparer ça? Comme à un arbre mort. Vous lui parlez, elle ne comprend absolument rien. Et elle, il lui sera difficile de participer au développement de, du pays. Elle sera au contraire très vulnérable parce que, comme elle n'a pas étudié, moi je vais prendre seulement des exemples. Hier, il y a un garçon qui m'a appelé pour me dire, mais maman Bernadette, voilà, j'ai le cas d'une fille qui ne fait que se prostituer pour gagner un peu d'argent. Est-ce que tu ne peux pas l'encadrer et essayer de faire en sorte qu'elle puisse quitter cette prostitution? Qu'est-ce que moi je lui ai dit? J'ai dit oui, il y a moyen, mais c'est aussi un problème de volonté. Moi j'ai fait beaucoup de reportages sur le monde de la prostitution. J'ai approché ces femmes de la prostitution. Quand vous leur posez la question, mais pourquoi tu restes là? Viens, on va te donner un travail. Elles vont vous dire non. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est ça leur profession. Pour elles c'est un travail. Donc c'est vrai que souvent on parle très peu de ces femmes-là. Moi, j'ai fait plein de reportages sur ces femmes-là, et je peux vous dire que elles sont vraiment. C'est, pour elles, c'est ça. Selon elles, dans leur tête, elles se mettent à l'idée qu'elles ne peuvent rien faire d'autre que la prostitution. C'est ça le fait de ne pas envoyer les filles à l'école. Automatiquement, elle est vulnérable. On peut lui raconter n'importe quoi. Elle est à la merci de tout le monde.
Donc, vous dites qu'elle préfère rester dans la prostitution parce que ça rapporte bien.
C'est ça. Oui, effectivement, elles vous diront non, mais au moins quand je me prostitue, chaque jour, je gagne quelque chose. Mais si je vais dans un travail là, il faut que j'attends
La
fin du mois. Or, entre-temps, moi, j'ai besoin de mon argent. C'est leur façon de réfléchir. Et pour elles, c'est un travail. Elles se définissent comme un travail. Maintenant, on parlait de la femme dans l'informel. Ça, c'est un cas de femme. Elle fait sa prostitution, elle vend son corps, mais elle est dans l'informel, puisque quelque part, elle n'est reconnue de personne. Mais pour elle, c'est son travail. Tout simplement parce qu'à la base, quand on parle de l'éducation, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Moi-même, il y a des fois, je me dis, ah, c'est toujours la même phrase, mais quand vous allez voir la réalité des choses, une fille qui n'a pas étudié, qui n'a aucune connaissance, c'est vraiment la dérive pour un pays.
D'accord, Madame Bernadette, il y a une réaction dans la salle. Oui, Madame.
Oui, je suis Madame Michèle Maconcor, je suis la coordinatrice nationale adjointe à l'Union congolaise des femmes des médias. Je voudrais donner la réponse à Madame parce qu'elle a posé la question, qu'est-ce que les femmes des médias ont fait pour les professionnels du sexe? Et je voudrais rappeler que nous puissions corriger l'appellation de face à choc quand on dit les prostituées, ça dérange un peu. On les appelle les professionnels de sexe. Ah, ok. Alors, pour ces professionnels de sexe, l'ICOFEM a déjà travaillé là-dessus, madame. L'ICOFEM a travaillé vers les années 2017-2018. L'ICOFEM a répertorié toutes ces femmes-là. L'ICOFEM a réalisé même des émissions, même des reportages à Pacajuma. Vous connaissez Pacajuma, c'est de l'autre côté. Oui. L'ICOFEM a réalisé des émissions à Pacajuma, de reportages. À l'époque, même à Sayo, à l'époque où à l'ancien cimetière de Sayo, nous avons réalisé des reportages sur Sayo. Nous avons réalisé des reportages à Pacajuma. Je me rappelle, c'était Bienvenue Babois qui est allé sur terrain, qu'on a réalisé des reportages. On connaît. C'était pour connaître le problème réel de ces professionnels du sexe. Je sais que nous sommes là avec de bailleurs. Il y aura un projet aussi, parce qu'il faut avoir de moyens pour continuer ce qu'on a déjà commencé à faire. Nous avons fait le répertoire des professionnels du sexe. Maintenant, il reste à les sensibiliser pour qu'on le puisse insérer dans la société, pour qu'elle soit utile dans la société. Voilà la réponse que je pouvais ajouter, madame. Je crois que vous êtes satisfaite pour ça.
Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Avant de donner encore la parole à Madame Bernadette, Madame Rose Camoignan, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit, surtout par rapport à la femme prostituée?
Oui, bon, ma collègue là.
Ah, on ne parle plus de la prostituée, mais des professionnels des sexes.
Professionnels des sexes, oui.
Parce que prostituée, c'est péjoratif. Allez-y.
Je pense que ma collègue a déjà donné une réponse et
voilà, il y a eu aussi plusieurs autres questions.
Est revenu sur ça. Je pense que c'est déjà compris. Mais moi, je voulais beaucoup plus rebondir sur le système éducatif. Ça nous tient vraiment. Il y a des efforts qui sont fournis par rapport à ça. Il y a un tas de choses qui doivent changer. notamment les chansons qui sont exécutées au niveau de la maternelle. Ce sont des choses sur lesquelles déjà il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a des associations.
Quelles chansons, par exemple, madame?
Papa au travail, maman à la cuisine, voilà. Donc là, déjà dans la tête des enfants, on leur dit que la maman elle est faite pour cuisiner et que la maman ne peut pas aller au travail. Eh ben, ça reste dans les enfants. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais ma mallette avec mon ordinateur. Il y a un enfant qui m'a approché pour dire que ça c'est le sac de notre papa. J'ai dit non, ça c'est le mien. Il me dit non, ça c'est le sac de notre papa. J'ai compris que c'est papa qui pouvait s'amener avec une mallette comme ça et la maman doit se promener avec des sacs à main et là on sait que ça c'est pour la maman quand on voit. Donc ce sont toutes ces choses qui sont ancrées déjà dans les enfants. Il y a des associations qui ont travaillé sur ça et qui ont amené des propositions pour que l'on change ces genres de choses dans le système éducatif. Et on est déjà en train de s'y mettre pour cela. Donc il faut changer la façon de voir les choses. Eh ben, quand on donne à la fille la poupée et au garçon on lui donne la voiture, c'est un peu pour dire à la fille que elle ne va jamais conduire un véhicule un jour. Elle est bonne pour mettre au monde et avoir à élever les enfants. Et déjà on se dit la fille ne sera jamais directeur un jour dans la vie. Et ce sont des choses sur lesquelles il faudrait travailler. Et pourtant, l'enfant reste un enfant. Il a des goûts à lui. Il peut choisir une poupée. Même un garçon peut choisir une poupée. Pourquoi pas? Et une fille peut aussi choisir un avion comme jouet. Et ce sont des choses que nous voyons. Il suffit de mettre tous les jouets là. Vous allez remarquer que l'enfant lui-même, il peut choisir n'importe lequel que lui-même veut. Mais très souvent, ce sont les adultes qui donnent des orientations, qui donnent des couleurs. Au garçon, on dit qu'il doit mettre le bleu. À la fille, on dit qu'elle doit mettre du rose. Donc, ce sont un tas de choses que nous devons apprendre à déconstruire dans la communauté.
Bien, merci beaucoup. Licofem, une réaction par rapport à ça?
Je voudrais toujours ajouter quelque chose parce que je voudrais dire ici que Licofem a mené des campagnes pour changer la donne. Donc, on doit quand même changer le manuel et changer tout ce qu'il y a comme stéréotype.
Même les chansons, là.
Oui. Mm-hmm. Là, on va le faire au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. On a déjà fait de plaidoyer. On doit changer quand même les choses, c'est-à-dire changer de manuel. Pourquoi pas, comme vous venez de le dire, en jouer une voiture pour un enfant de sexe féminin aussi. C'est à nous aussi, le parent. Quand vous amenez, il ne faut pas séparer à la maison. Vous achetez un ballon pour un garçon, vous achetez une poupée pour une fille. Achetez le jouet, mettez les enfants ensemble pour jouer. Mais ici, il faut souligner que l'ICOFEM est déjà en train de travailler sur ces dossiers. Donc, au niveau de l'enseignement primaire, on doit changer le manuel des enfants pour bannir tous les stéréotypes. C'est papa qui va au travail, maman va au marché. Mais aujourd'hui, là, quand vous voyez la réalité, les choses changent. Quand vous posez la question à votre fille qui a acheté ce jouet, elle te dira, c'est maman. Aujourd'hui, les mamans vont au travail, les papas aussi vont au travail. Donc, les choses commencent à changer avec le temps. Donc, nous sommes obligés d'échanger les manuels et changer certaines choses pour que filles et garçons puissent travailler dans un monde harmonieux.
Égalitaire. Madame Bernadette, votre réaction. Madame Tina aussi peut réagir par rapport à cela.
Je voulais un peu compléter par rapport à la réponse. On a parlé justement du problème de l'éducation de la fille qui est très très importante, tout simplement pourquoi? Parce que à travers l'éducation, la fille parvient aussi à connaître ses droits, hein, dont les droits économiques. Et une fois qu'elle maîtrise ses droits économiques, ça lui permet aussi d'avoir accès à son autonomisation. Quel est l'avantage justement de l'autonomisation économique des femmes et par exemple de la jeune fille? Quand moi je parle de la jeune fille, je parle de la jeune fille qui est déjà entre 18 ans et 35 ans, soyons vraiment clairs. En bas de 18 ans, pour moi, la fille, sa place, c'est à l'école. Alors, donc l'avantage, c'est que l'autonomisation de la femme est une voie vraiment sûre pour l'égalité des sexes. L'éradication de la pauvreté. Tout à l'heure, on parlait des professionnels du sexe. La base de cet état des choses, c'est justement la pauvreté. Et c'est pourquoi il est important que des sensibilisations puissent être faites justement pour qu'il y ait un changement de comportement par rapport à ça. Ici, nous sommes devant une plénière remplie de femmes des médias. Et c'est là où vraiment je demande à la femme de médias aussi que dans les programmes, de pouvoir se battre, qu'il puisse y avoir justement beaucoup plus d'émissions d'encadrement de la femme. Quand je vois les émissions d'encadrement de la femme à la télévision, c'est toujours la cuisine, c'est toujours la beauté, et actuellement c'est surtout le sexe. Donc c'est un peu ça. Mais parler de la femme sur le plan de son autonomisation, excusez-moi, l'entrepreneuriat, l'inciter à faire de l'entrepreneuriat, que ce soit même informel ou formel, mais ne fût-ce qu'elle puisse devenir autonome.
Bien, Madame Bernadette, sans vous couper la parole, je vais revenir à vous tout à l'heure. Il y a eu plusieurs questions. On va donner la parole à Madame Tina Likula, qui est experte en genre au ministère de médias et de la communication. Parmi les questions, Madame Tina, il y a eu celle-ci. Les filles mères doivent-elles retourner à l'école ou on doit leur donner des fonds pour commencer des activités, les activités génératrices de revenus? Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette préoccupation-là?
Je crois que moi, je suis là comme une femme fonctionnaire. Il y a le ministère des Affaires sociales qui gère toutes ces femmes-là. Les filles mères, je crois que vous voyez toujours, il y a toujours des centres où on écrit encadrement filles et mères. Donc l'État n'a pas sous-estimé la fille mère. Elle est considérée, elle a sa place. C'est question de l'informer. C'est pourquoi on est en train de dire que la femme des médias, elle est vraiment impliquée dans la sensibilisation des campagnes de l'autonomisation de la jeune fille et de la femme. Puisque quand la femme de médias veut faire comprendre à cette jeune fille-là qui est dans sa parcelle, qui est dans son avenue, que tu ne dois pas rester ici à la maison, voilà, il y a un centre, il y a une ONG, là où on doit prendre soin de toi, là où on va prendre en charge ton cas. Cette fille mère, elle ne va plus rester clouée, elle ne va plus garder cette enveloppe qui la gêne. Donc la femme de médias, moi je veux plus dire que elle a une certaine responsabilité, elle joue un rôle.
Madame Tina, avant de parler de la femme de médias, est-ce que la fille mère doit-elle retourner à l'école ou on doit lui donner de l'argent pour commencer des activités?
Oui, c'est ce que je suis en train de dire.
Oui.
Vous voyez, il y a des centres. Dans ces centres-là, qu'est-ce qui s'y passe? Quand vous arrivez, on peut vous dire, est-ce que vous savez écrire? Vous pouvez reprendre avec l'alphabétisation. Si vous ne savez pas écrire, on peut dire qu'est-ce que vous pouvez faire. On peut vous apprendre la couture et vous devenez une grande. On peut vous apprendre la cordonnerie. Il y a plein de choses qu'on apprend aussi au centre. C'est-à-dire, on ne doit pas minimiser le centre de formation. Il y a eu une fois où je suis allée au ministère des arts et métiers professionnels. Les gens ne font pas allusion surtout à ça. Nous négligeons l'INPP, mais à l'INPP, il y a des ingénieurs. Il y a des gens qui ont des talents. Vous verrez qu'il y a une personne qui brille, il n'est pas sorti de l'ISTA, il est sorti de l'INPP. Vous comprenez un peu ça? C'est pour dire qu'on est en train de faire, le gouvernement fait un effort de relever ces défis-là, prendre toutes les couches au même pied d'égalité.
Voilà, il y a eu une autre question tout à l'heure. Pourquoi quand il y a des partages d'expériences, les femmes elles-mêmes ne viennent pas dans les rencontres? Je crois que c'était ça la question de madame de l'autre côté. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cela?
Aujourd'hui, nous disons, nous sommes dans la foire des femmes des médias. Il y a aussi des autres femmes qui ont zappé, hein, mais il y a des femmes
qui ont pris conscience.
Qui ont
d'autres activités.
Voilà, c'est pourquoi cette foire n'est pas seulement pour qu'on vienne, pour qu'on parle. Mais c'est aussi pour éveiller la conscience de la femme. Ce n'est pas seulement la femme des médias, mais la femme.
La femme en général.
Oui.
Mesdames et messieurs, merci d'applaudir très 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 fort. Au Capi Service, nous sommes en direct de Bobo-Dioulasso à l'occasion de la 3e édition de la foire des femmes des médias. Tati, on va encore recueillir d'autres questions dans la salle.
Oui, merci beaucoup, bonjour. Bonjour, je suis Talif Guimena de Justice à Télévision. Quand on parle de l'autonomisation de la femme, excusez, et de la jeune fille dans les médias, mais les médias, ce n'est pas seulement la vie de Kinshasa. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez aussi pour les femmes et les jeunes filles des médias au niveau des provinces, des autres provinces, parce que la RDC comprend 25 provinces ainsi que la vie
26 provinces.
Non, en fait, c'est juste une question de voir l'article 2 de la Constitution.
Oui.
Parce que j'ai lu d'abord ma Constitution avant de le dire. Nous avons une ville de Kinshasa et 25 provinces.
D'accord, merci beaucoup.
D'accord, en fait, c'est juste ça ma préoccupation.
Voilà. Vous parlez merci. Des femmes qui sont dans les autres provinces. Madame Noémie Kilembe.
Voilà, moi c'est Madame Noémie Kilembe. Je suis directrice adjointe à Internews. Je voulais juste rebondir directement sur la question qu'a soulevée le journaliste de Justicia TV pour dire que je suis sûre que les dames vont y revenir parce qu'il y a des actions qui se passent également en province. Mais juste pour votre information, par exemple, pour Internews qui œuvre également dans la promotion de la femme et qui appuie techniquement justement l'organisation de cette foire, nous avons fait pareil à Lubumbashi et à Bukavu. Donc on n'a pas seulement pensé aux femmes des médias de Kinshasa, mais nous avons organisé cette même foire le 9 mars dernier, on l'a organisée à Lubumbashi, et aujourd'hui même, pendant que nous sommes dans cette salle, il y a également cette même foire qui est organisée à Bukavu. Donc juste pour dire que oui, effectivement, il n'y a pas que les femmes à Kinshasa, il y en a aussi en province, et nous y pensons également en ce qui nous concerne. Mais je sais que les dames vont y répondre également parce qu'il y a des actions qui se font également en province. Merci.
Merci Madame Noémie. Oui Madame Tati, pouvez donner le micro à Madame. Bonjour.
Okay. Bonjour, merci. Je suis Rose Massala, la directrice exécutive nationale de l'UCOFEM. J'aimerais ajouter sur ce que vient de dire Madame Noémie que l'UCOFEM est une structure qui existe depuis 25 ans. Nous totalisons 25 ans cette année, donc au mois de juillet, on sera encore ensemble pour célébrer nos 25 ans.
Les 25 ans
du
COFEM.
Alors, je voulais dire que depuis le début, notre champ de bataille, c'est la lutte pour la promotion et la défense des droits des femmes dans et par les médias. Et je vous signale que l'UCOFEM n'est pas seulement à Kinshasa. Nous sommes au Katanga, nous sommes au Nord Kivu, nous sommes dans les Bandundu, bref, dans sur toute la République, sous le format de l'ancienne formule. C'est-à-dire, nous sommes partout en RDC. Et le combat que nous menons ici, c'est le même que nous menons partout en province. Merci.
Merci, Madame Rose, pour cette précision. Et d'autres préoccupations dans la salle? Bonjour, monsieur.
Bonjour. Merci beaucoup pour la parole. Je me nomme Daniel Alouterembi, journaliste à MediaCongo.net. J'ai une question à Madame Bernadette. J'aimerais savoir, dans cet auditoire, il y a aussi des hommes. Quel est le rôle que nous, hommes, devons jouer pour favoriser l'autonomisation de la femme et de la jeune fille? Merci.
Une autre intervention?
Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Scott Mayemba. Je suis défenseur de la liberté de la presse. Moi, je n'ai pas une question, mais une contribution. Bon, en fait, je voulais rallonger un peu la liste des entraves ou des stéréotypes. On nous a parlé des us et coutumes, on nous a parlé du système éducatif.
De la religion.
Il y a aussi la musique congolaise, c'est-à-dire la culture. Notamment la musique congolaise qui ramène la femme, je me cite le terme, au niveau des édoxies. C'est-à-dire...
Pardon?
La musique congolaise amène la femme au niveau des édoxies. C'est le terme, je maîtrise.
Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est-à-dire, la musique congolaise met la valeur, accorde plus la valeur, comme on dit à Kinshasa, à nous autres. C'est la femme. Et curieusement, nous sommes dans la foire de presque toutes les émissions chroniques musicales sont présentées par deux femmes, en grande majorité. C'est-à-dire, il y a aussi une part de responsabilité dans ça.
Bien, on revient à nos intervenantes. Madame Bernadette Kamango, à vous la parole.
Je voulais dire par rapport aux médias des provinces, heureusement l'UCOFEM, les représentantes du COFEM ont pu répondre à cette question, mais c'est vrai que même ici à partir de Kinshasa, nous avons des chaînes qui sont nationales, nous avons la RTNC, nous avons d'autres chaînes privées, mais qui interviennent sur le plan national, même Radio Okapi que nous avons ici, nous sommes suivis par 24 millions de personnes,
24
c'est
millions
ça.
D'auditeurs.
Donc il y a quand même un effort qui est fait pour toucher la femme dans les provinces. En ce qui concerne la question par rapport à la présence des hommes ici dans l'auditoire, eh bien, je vous félicite, c'est-à-dire que vous êtes des hommes genrés, et je crois qu'on peut vous applaudir.
Merci d'applaudir très très fort pour les hommes genrés. Ils sont dans la salle.
Et voilà, donc vous êtes des hommes genrés,
Et je pense que
Et qu'est-ce que cela veut dire homme genré?
Homme genré, ben là, ils sont là pour justement accompagner les femmes, contribuer à leur manière justement à la promotion de la femme, à la promotion de l'autonomisation de la femme. Donc, comme nous sommes dans les médias, dans nos médias, il n'y a ni homme ni femme. Nous faisons tous le même travail. Alors, c'est de cette manière-là que moi, je vous recommanderais justement aussi de faire en sorte de plus parler de la promotion de la femme, surtout de l'autonomisation de la femme. Heureusement, il y a le confrère ici qui nous a parlé justement des images qui passent au niveau de la télé. Nous oublions souvent que nous sommes le quatrième pouvoir. Nous avons un pouvoir qui est, on peut dire, même l'une des plus grandes puissances qui puisse être concernant la communication. Et je ne sais pas, au niveau de nos médias, surtout nos médias congolais, je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais comme on peut dire, tout tourne autour du nombril, si on peut dire. Et ce sont les modèles que nous envoyons à nos filles. Ce sont les modèles que nous envoyons à nos jeunes filles. Alors, cette jeune fille qui, par exemple, pour une circonstance ou une autre, ne sait pas aller à l'école parce qu'elle n'a pas le moyen d'aller à l'école, au lieu justement de lui apprendre d'entrer dans un centre de formation, parce que la transformation nationale ne peut venir que de la formation et de l'information. Au lieu d'envoyer cette petite fille-là, de l'inciter vraiment à aller vers des centres de formation, même si elle n'a pas d'argent, non, on lui présente la musique, on lui présente des théâtres, soi-disant théâtres qui ne sont même pas du théâtre, on lui présente des programmes en fait qui ramènent vers le bas. Et c'est de cette manière, après ça, on commence à se plaindre, oh, la fille, elle est ceci, la fille est faible, la fille est ceci. Non, moi je pense que c'est plutôt le résultat de ce que nous apportons à la jeune fille, à la fillette, parce que tout commence par d'abord d'abord fille.
Madame Bernadette, oui? Prenons les femmes qui sont dans l'informel, elles travaillent déjà et gagnent de l'argent. Oui. Est-ce qu'il faut encore les autonomiser ou elles sont déjà autonomes?
Elles sont autonomes, mais comme je le disais là, dès le départ, ce sont des entreprises individuelles. Donc ce sont des personnes physiques. Quand elles sont autonomes, dernièrement on a fait une enquête, c'était sur l'initiative justement de ONU Femmes, nous sommes partis vers ces femmes-là pour connaître un peu leurs problèmes concernant les droits économiques. Elles ne connaissent rien de rien. Quand vous leur parlez, vous leur posez la question de savoir quelles sont les violences économiques auxquelles elles font face, elles vous répéteront, oh non, c'est la violence sexuelle. Donc tout simplement, on a compris qu'il y a un manque d'informations. Un manque d'informations pour qu'elles puissent justement profiter de ce secteur informel. Elles
D'accord, sont autonomes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Les aider à formaliser leurs activités?
Obligatoirement. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai mon entreprise. Moi-même, j'ai commencé dans l'informel. Mais en commençant dans l'informel, je me suis rendu compte que je n'ai accès absolument à rien. Je peux aller dans une banque. On va me demander quelle est votre entreprise. Je n'ai pas. Je viens seulement moi-même physiquement. On va me dire non. Pour avoir des crédits, il faudrait que vous soyez dans une structure. Alors c'est comme ça. J'ai été poussée à cause des petits entraves que je rencontrais parce que j'étais dans l'informel. C'est ce qui m'a poussée à me rendre au guichet unique, à aller payer pour obtenir mon RCCM, mon identification nationale et mon numéro d'impôt et puis tout ce qui
Et vous avez tous les papiers
J'ai tous les papiers, même concernant les CNSS, parce que quand vous avez aussi une entreprise, il faut dire que ces mamans qui fonctionnent dans l'informel, elles créent l'emploi, elles créent la richesse, elles créent aussi les revenus. Alors maintenant, mais ces revenus-là, quand elles créent l'emploi, elles ont des personnes qui travaillent pour elles, mais ils ne sont pas protégés. Tandis que quand il y a une entreprise, il y a le numéro de CNSS. Automatiquement, vous serez poussé à pouvoir protéger aussi vos travailleurs, et ça vous protège aussi vous, que si en cas de problème, quand vous êtes dans le privé, un de vos employés peut-être, avoir un accident de voiture. Mais qui va sortir l'argent? C'est vous. Mais par exemple, si vous avez des assurances qui protègent l'employé, mais automatiquement, vous-même, l'employeur, vous êtes protégé. Donc moi, je pense que il faut un peu mieux informer la femme, la jeune fille, la fille. Et c'est encore un travail qui doit se faire. Il faut aussi, moi, je crois que nous devons aussi sensibiliser nos femmes des médias à pouvoir sensibiliser les autres femmes. Parce que les femmes des médias, ce sont des sensibilisatrices, ce sont des mobilisatrices.
D'accord.
Mais elles se limitent seulement à certains. Bon, on
merci
comprend.
Merci, Madame Bernadette Kamango. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette première partie de l'émission. Madame Rose Kamoigna, présidente de l'ONG Carrefour des femmes de l'action, lève-toi et brille. Alors, comment autonomiser la femme, briser les stéréotypes pour rendre la femme autonome?
Merci beaucoup. Je pense que, comme l'a posé la question notre collègue tout à l'heure, pour savoir qu'est-ce que vous attendez de nous les hommes. Nous attendons beaucoup de vous les hommes. Nous attendons à ce que les hommes accompagnent les femmes dans les droits. Nous attendons que les hommes changent certaines dispositions juridiques qui maintiennent encore les inégalités, hein, les disparités et tout ça, les violences, comme on peut le dire. Nous
Madame
attendons
Rose,
des hommes qui nous accompagnent.
Il y a des hommes
accompagnent.
Qui n'aiment même pas que leurs femmes travaillent.
Tout à fait.
Ils
avant de revenir,
à la maison,
avant de toucher ce point-là, je voulais d'abord rebondir un tout petit peu sur ce que ma collègue a dit sur l'autonomisation. Il y a des femmes qui ne sont pas du tout autonomes. Quand on parle des femmes autonomes, on le voit beaucoup plus dans nos villes. Mais quand vous allez dans les territoires et dans les villages, c'est autre chose. J'ai fait 5 ans dans les Kouilou profond, où nous avons accompagné des femmes agricultrices. Et là, c'est tout autre chose. La femme, elle est au champ, elle fait tout le travail, et quand arrive le moment de la vente, c'est l'homme qui gère le pouvoir d'eux. J'ai parlé tout à l'heure des pouvoirs d'eux, le pouvoir sur, le pouvoir avec. Il faudrait qu'elle ait ce pouvoir, que la femme puisse gérer, qu'elle bénéficie de ces fruits-là. Mais c'est pas ce que nous vivons. Alors, là, quand vous êtes dans ces milieux-là, il y a toute autre chose qui se fait. La femme n'est pas autonome. Et chaque jour, c'est elle qui est en train de peiner pour le travail. Il y a même des choses que l'homme ne peut pas faire avec les stéréotypes. On vous dit, par exemple, que pour mettre le manioc dans l'eau, ça, c'est pas le travail des hommes. Les hommes disent que ça sent très mauvais. Il y a un terme qui est utilisé là-bas. Donc, et ce terme-là, quand un homme ose le faire, on lui colle le cliché. Il y a encore ces stéréotypes dans la communauté.
C'est quoi le terme, madame?
Ah, j'ai oublié le terme. Il est en Kikongo. J'ai oublié le terme. Alors, donc, c'est un certain nombre de choses qui nous empêchent d'avancer. Et pour les hommes qui refusent que les femmes travaillent, ça me rappelle un peu le plaidoyer que nous avions mené pour obtenir la parité. Et lorsque il y a eu des discussions avec les parlementaires, c'était « Ah, vous revenez encore avec les choses des femmes. C'est encore quoi? Vous avez cherché l'émancipation et là vous nous amenez encore quoi ?» Et il a suffi tout simplement qu'il y ait l'inspiration et que les femmes disent aux députés « Alors pourquoi vous demandez à vos filles d'aller à l'école? Gardez-les à la maison parce qu'elles sont bonnes pour rester à la cuisine. » Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic pour dire « Non, moi ma fille qui a étudié, elle doit travailler. » On lui dit, mais justement, le problème que nous avons ici, le combat que nous avons ici, c'est pour la femme. La femme. La femme. Donc nous ne voyons pas la femme, qu'elle soit d'un territoire, qu'elle soit d'un village, qu'elle soit dans la ville, mais nous parlons de la femme. Et justement, le problème qui se pose avec les hommes, c'est le regard qu'a cet homme sur la femme. Qui est cette femme? C'est la femme que lui a épousée. Il pense que la femme que lui a épousée n'a pas droit de travailler. Mais quand vous lui parlez de sa sœur, quand vous lui parlez de sa mère, quand vous lui parlez de sa cousine, c'est un autre regard qu'a cet homme. Ce sont des choses que nous devons changer. Ce sont des choses que nous devons changer, améliorer. Lorsqu'une femme est violentée...
Madame Rose Kamoigna, voilà, merci d'applaudir très 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 fort, mesdames et messieurs, merci. Cette intervention. Je pense que c'est par là qu'on va clôturer cette première partie de l'émission. Au CAPI, service en direct de Boboto, à l'occasion de la foire des femmes des médias. Mais madame, pour terminer, il semble qu'aujourd'hui, la femme peut travailler sans, on n'a plus besoin de l'autorisation maritale.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Par le code de la famille. Bon, j'ai pas retenu l'article, mais je sais qu'avec la réforme du code de la famille, maintenant, l'autorisation maritale n'existe plus. Mais ça aussi,
comme je vous l'ai dit, si vous allez vers la femme, heureusement ma sœur ici a parlé des femmes, des filles de la province, elles ne sont pas au courant de ça. Ou bien les personnes qui peuvent être au courant de ça et qui peuvent justement les sensibiliser sur cet article du Code de la famille, ils feront tout. Parce que le meilleur code, selon certaines personnes, c'est que la femme est soumise. Alors, on va tout faire justement pour qu'elle garde ce stade de soumission, afin que, je ne sais pas, que on puisse laisser son partenaire homme un peu tranquille. Mais légalement, nul n'est au-dessus, n'est en dessous de la loi. Et la loi est dure, mais c'est la loi, mais c'est exactement ce que nous dit notre loi ici au Congo.
Mais il y a aussi actuellement des dispositions, par exemple, dans les offres d'emploi qui favorisent la femme. On dit, par exemple, que les candidatures féminines sont encouragées. Ça, c'est déjà des avancées qu'on peut signaler.
Oui, effectivement, ça, ce sont vraiment des avancées. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'emploi, c'est beaucoup plus, encore une fois, nos amis les hommes qui ont beaucoup plus ce courage d'aller déposer les dossiers. Et une femme, bon, d'abord, elle va réfléchir si je travaille, surtout si elle est mariée. Bon, il y a mon mari, il y a les enfants, est-ce que j'aurai du temps, est-ce que j'aurai ceci? Si c'est une jeune fille, bon, elle va traîner les pieds, quelque chose comme ça. C'est pourquoi moi, j'insiste beaucoup sur la formation de nos filles et de nos jeunes filles, pour avoir plus tard, dans l'avenir, des femmes qui soient justement capables de pouvoir répondre à des problèmes sociaux de ce genre.
Bien, merci beaucoup, Madame Bernadette Kamango. Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît? Elle est journaliste indépendante, chargée de communication du Forum entrepreneuriat de la femme congolaise. Nous disons également merci à Madame Rose Kamwanya, présidente de l'ONG Carrefour des femmes, d'Action Lève-toi et Brille. Merci de l'encourager très très fort par vos applaudissements. Alors nous clôturons ainsi la première partie de cette émission. Je pense qu'on va garder le même panel et on va tout de suite reprendre avec la deuxième partie de l'émission où nous allons parler de la contribution, l'implication de la femme des médias dans l'autonomisation de la femme congolaise. Encore une fois, sous vos applaudissements. Voilà.
Yaka yaka na linga yo, bongo si mali wa ya, zuanga yo. Iyo jimu. Nanunga na linga buiti u, na hinu na mi pesa bongo te. Dino, yoko somela ngaliwai, soki yoko change tendi. Mbengi na yo yako zala nango, inzale lina yuepa nango. Dino, bazinga li bradesu, baninga uyo yanga ilo poko elongwaka. Nalita mati, loko la nazanga moto na mokili. Kaka poboka na yo koti na tansangote. Loko lotongi efelo na kati yanga ina yo. E pourtant elongi na yo na motema na ngai. Loko la mwese ya seko na horizon. E banga ata na kati ya lilita. La kozala nanga kaka kolinga kaye. Jina boka na yaya na izae. Na lembizo toa wanazali jino. Na sila kumbela yo kuruza bulu. Poni nyo pesi ingali susu etu. Ya sila oso na yo. Anga ina kokisi mapazo koto ye. Yaka yaka na linga yo. Uvungo sila liwa yo. Kuzu wanga yo. Sala loko langa muninga, jino, tika motema na ya eloba. meme bunga katelo ko yango elingi oyange